RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Didier Giraud, Charles Consigny, Barbara Lefebvre et ce jeu Super Challenge Foot que j'ai bien l'intention de vous offrir. J'ai deux boîtes, regardez sur RMC Story, deux boîtes de jeux, c'est un peu un trivial pour du foot. C'est vraiment pour les fans de foot. Il y a 400 questions inédites sur l'histoire de la Coupe du Monde du foot. Idéal pour tester les connaissances de chacun alors que le mondial vient commencer. Tiens, j'en prends une au hasard, question. Je la pose pas à Charles et Barbara parce que
moi,
le foot,
attends,
c'est pas
je suis calé en foot, j'adore les matchs.
Écoutez, que désigne un coup du chapeau ?
Eh ben oui.
Trois propositions.
Absolument. Trois buts dans le même match par
soit
le même joueur.
Soit une célébration. Réponse B, un tacle glissé. Réponse C, inscrire trois buts consécutifs.
Trois buts consécutifs. Par le même joueur.
Bravo Didier Giraud. Ben voilà. Si vous voulez cette boîte, soyez bon au 32-16. Voilà, les bons auditeurs auront cette belle boîte.
Ouais. Et il y a 500 euros dans une des deux boîtes. C'est ça que tu n'as pas à préciser.
Ou un mini four à pizza.
Vous aviez deux sujets au choix, parce que vous le savez, à 11h, c'est vous qui choisissez le thème de débat. Vous êtes le rédacteur en chef, en quelque sorte. Soit parler du Qatar, justement, qui a totalement raté hier son entrée dans le mondial, soit évoquer les révélations du Parisien concernant Samuel Paty, lâché par l'éducation nationale, l'enseignant assassiné par un islamiste. Qu'avez-vous choisi ? Eh bien, vous avez choisi ces révélations du Parisien concernant Samuel Paty.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
Et c'est vrai qu'elles sont assez accablantes, ces informations concernant les derniers jours de Samuel Paty, assassiné il y a 2 ans par cet islamiste. Le Parisien, en fait, a consulté le rapport des policiers de la sous-direction antiterroriste qui montre que l'enseignant vivait dans la terreur les jours qui ont précédé sa mort. Il n'a bénéficié d'aucune protection particulière. Pourtant, les menaces existaient. D'ailleurs, l'ancienne principale du collège de Conflans-Sainte-Honorine dans le Parisien dit qu'elle avait pris la mesure des choses, de ces menaces. Elle avait prévenu le référent police au commissariat de Conflans, notamment, pour demander une sécurisation du collège. Une réunion avait eu lieu, etc. Finalement, la seule mesure proposée par le commissariat sera celle-ci, c'est d'appeler Samuel Paty pour lui dire de prendre son véhicule personnel pour se rendre au collège, parce qu'il allait à pied, il habitait pas très loin, il rentrait à pied, mais il rentrait de chez lui la peur au ventre, la capuche sur la tête pour passer inaperçu. Il avait écrit par email à ses collègues pour leur expliquer qu'il était menacé par des islamistes locaux. C'est le 10 octobre, hein, 6 jours avant sa mort. Et là, il y a deux enseignants qui se désolidarisent totalement de son cours et disent oui, ben, c'est un peu islamophobe, etc. Donc, lâché par une partie de ses collègues. Et le 16 octobre, le jour de l'assassinat, il demande à un de ses collègues s'il peut pas le déposer en voiture parce qu'il se sent vraiment pas en sécurité. Impossible, lui répond son collègue. L'emploi du temps est incompatible. Et donc finalement, il va quitter le collège seul, à pied. Et sur les images de vidéosurveillance, on le voit relever sa capuche. Quelques minutes plus tard, il sera assassiné. Et dans son sac, on a retrouvé un marteau. Il avait un marteau sur lui pour effectivement essayer de se protéger. Alors ces révélations sont assez terrifiantes parce qu'on voit bien que il était seul finalement. Il était seul avec sa terreur face à ses menaces et malheureusement on n'a pas pu l'aider, Barbara Lefebvre. On n'a pas voulu l'aider.
Oh ben, ces révélations du Parisien sont absolument glaçantes. Néanmoins, je pense que la famille devait quand même en avoir la suspicion, parce que la famille, on le rappelle, avait déposé une plainte pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Je pense que quand on a été enseignant pendant 20 ans et qu'on a vu la machine fonctionner sur des situations moins graves, mais enfin sur des situations qui peuvent être très problématiques, on sait à quel point l'institution est capable de vous, non seulement de mettre la poussière sous le tapis, mais en plus de vous culpabiliser, d'oser parler, de vous empêcher de soutenir un collègue. Quand vous êtes chef d'établissement, on va quasiment vous menacer en vous disant tu vas être mal noté si tu l'ouvres. Donc je pense que la famille a eu raison de pousser à cette enquête pour que enfin publiquement on sache comment aujourd'hui et comment pendant longtemps on a traité les enseignants et comment on continue de les traiter. J'espère que monsieur Jean-Michel Blanquer pourra s'expliquer et que le rectorat de Versailles pourra s'expliquer. que l'inspection académique, parce que c'est l'inspection en premier qui a immédiatement été diligentée et qui a culpabilisé Samuel Paty en lui disant « Oui, mais alors finalement, votre cours, quand même, c'est pas terrible. Hein. Vous auriez pas dû faire ci, vous auriez pas dû faire ça. » est allé finalement instiller le doute au sein de l'équipe enseignante. Et on sait combien parmi parfois les salles des profs, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de courage et beaucoup de soutien. J'en ai fait à maintes reprises la belle expérience. Donc je trouve que quand on est enseignant et qu'on a été un enseignant, on va dire, qui se laissait pas faire et qui n'avait pas décidé de mettre la poussière sous le tapis et qu'on lit ça, on sait à quel point il a dû vivre un enfer, une peur bleue. Même si sa chef d'établissement le soutenait, et il y a aussi les témoignages de l'agent d'accueil.
Oui.
Parce que l'agent d'accueil, dans un établissement scolaire, c'est cette personne-là qui reçoit les appels et qui ensuite transfère. Et elle dit qu'elle a reçu, qu'il recevait au collège des messages du monde entier pour menacer le collège en disant les musulmans du monde entier vont venir brûler votre établissement, tuer ce prof, etc. Lui, il a fait des recherches sur Internet.
Il n'y avait pas de protection policière.
En tout cas, ça montre bien que les islamistes qui ont menacé Samuel Paty et qui ensuite ont fait semblant de se dire « Ah, on ne savait pas que ça allait prendre ses proportions », ils le savent très bien, parce qu'ils savent très bien que les réseaux islamistes sont des réseaux tentaculaires et internationaux et qu'en réalité, ces appels au meurtre sont des appels qui sont lancés, ces fatwas sont des fatwas qui sont lancés dans le monde entier. Ils ont même réussi à rattraper Salman Rushdie. Et ils ont effectivement massacré notre collègue. Donc,
et aujourd'hui encore, il y a des profs qui sont menacés. Hein.
Bien sûr, c'est très important cette enquête parce que l'éducation nationale va devoir rendre des comptes.
Didier Giraud.
Écoute, quand tu lis cette enquête, moi ce qui me glace le sang, c'est que ce monsieur, avant de mourir, il avait complètement conscience de ce qui allait lui arriver au point de se promener avec un marteau dans le sac à dos. Quoi. Enfin, tu vois, il n'a pas eu le temps de s'en servir certainement, mais... il était complètement conscient des risques qu'il avait pris et il se passe 4-5 jours là où il ne se passe rien finalement quoi, hein. Et il va tranquillement à la boucherie sans, enfin voilà quoi, je trouve que c'est glaçant. Après je comprends aussi que, enfin on attend tout de l'État, mais on sait ce que c'est qu'une vidéo, une protection policière 24 heures sur 24. Enfin c'est quelque chose qui est quand même hyper lourd à mettre en œuvre et ça nécessite des moyens qu'on n'a plus quoi. De dire que l'éducation nationale l'a lâché, t'as raison Barbara, c'est évident. Qu'est-ce que la société avait comme moyen pour protéger Samuel Paty? J'en sais rien.
De toute façon, les premiers responsables, c'est les parents d'élèves qui l'ont menacé.
Bien sûr, c'est les premiers qui ont démarré la polémique.
Ils ont monté toute pièce une cabale en racontant n'importe quoi.
C'est ça, pour avoir, sur un autre sujet, eu l'occasion de passer une soirée et de discuter avec le papa de la petite Mila, il t'explique quand même que des gens normaux, parce qu'il y a un tweet qui part dans une sphère qui veut du mal, qui est pas bienveillante, il t'explique comment le truc il peut partir en live et ta vie est menacée à jamais quoi, hein, ta vie bascule et t'es à jamais menacée et le risque est toujours présent quoi.
Sa vie bascule, en tout cas la vie des islamistes qui ont menacé parce que leurs noms ont été divulgués, eux ça va, je pense que nous de notre côté on fonctionne pas comme eux, c'est-à-dire que nous on va pas aller ensuite leur dire on va tuer ta famille, on va faire ci, on va faire ça. Nous on se comporte bien et c'est eux qui en permanence sont dans les menaces
parce qu'il faut faire confiance à l'État de droit.
Ouais, non mais
c'est pour ça que l'État a un devoir de protection,
de civilité et de
considération. Mais après concrètement, le commissariat du coin avait-il les moyens de raccompagner Samuel Paty? Tu vois la question suivante, parce que quand tu lis l'enquête du Parisien après derrière c'est quoi la question suivante, c'est est-ce que le commissariat local avait les moyens de raccompagner Samuel Paty? Elle est là, là, au lieu de lui dire rentre chez toi.
En tout cas, il y a eu beaucoup de lâcheté, beaucoup de solitude de ce professeur. Oui. On apprend notamment qu'il avait fait des recherches sur Google 3 jours avant sa mort, un peu frénétique. C'est quoi une menace à l'ordre public? Trouble à l'ordre public, code pénal, atteinte à la paix publique. Il consulte le site d'un cabinet d'avocats pénalistes. Donc en fait, il était abandonné et il cherchait une solution pour alerter, pour qu'on lui vienne en aide. Moi, j'aimerais quand même parler avec les deux professeurs qui se sont désolidarisés de lui en taxant son cours d'islamophobie. Ça m'intéresserait de parler avec ces deux lâches et ces deux traîtres.
Oh, bah, il a été obligé de se justifier. Il disait, mais je suis athée, je suis pas baptisé.
Ça, franchement, ils doivent se. J'espère pour eux qu'ils sont morts de honte dans leur lâcheté, mais voilà, il y a à l'évidence une défaillance et un abandon de la part du ministère de l'Éducation nationale, qui quand même pourtant n'est pas le moins pourvu en ressources humaines. Non. Et donc on aurait pu faire crédit, et donc on aurait pu faire quelque chose.
Oui, là il n'y a pas un problème de moyens
pour ce professeur.
Mais c'est un mauvais message que tu envoies aux profs, en fait. Ouais. Aujourd'hui il y a
ça veut dire couchez-vous, quoi.
Il y a des atteintes à la laïcité qui sont constatées. Le ministre actuel d'ailleurs l'a dit, hein, de plus en plus. Donc il y a des profs qui demandent aux élèves de d'enlever leur tenue islamique, etc., qui sont menacés parfois par les élèves, mais aussi par les parents. J'imagine qu'en lisant ce qui s'est passé pour Samuel Paty, ces profs doivent se dire, mais pourquoi moi je m'emmerde avec ça. Je veux dire, je vais lâcher.
C'est le début avant le grand remplacement. C'est quand même le début de la grande démission, quoi.
Hein. Ah, voilà. Bah, ça ressemble au livre de Houellebecq, Soumission.
Mais ça vaut pas le coup de mourir. Enfin, je veux dire, mais si c'est pour finir décapité comme Samuel Paty.
Demandez-vous pourquoi.
D'ailleurs, je suis pas aidé. Je suis pas
soutenu. Un grand nombre d'enseignants décident de quitter le métier. On quitte le métier pour nos conditions de travail, bien sûr, mais on quitte le métier aussi parce qu'on s'est épuisé. Moi, je l'ai déjà dit. Je me suis épuisé sur ces combats de la laïcité en particulier. Et je peux te dire, Charles, que des collègues dans les années 2000, quand c'était pas autant d'actualité, moi, j'ai passé le 11 septembre 2001 dans un collège ZEP. Ah, je peux te dire que devant les hurrahs et les vivas, ils regardaient tous leurs pieds et on n'était pas nombreux à essayer de s'insurger, ou quand c'était la fête du collège, j'ai demandé aux gamins
Charlie
de rentrer leur drapeau.
Pareil après Charlie Hebdo.
Et ben voilà. Mais donc, les collègues, excuse-moi,
beaucoup de gens n'ont pas voulu faire la minute
que les
silence.
Profs viennent pas commencer à laisser croire qu'ils sont tous très courageux. Moi, je peux vous montrer aujourd'hui des photos prises par des collègues sur des sorties scolaires de lycéennes dans Paris, où on laisse les gamines
si
se balader avec le voile. Et c'est des profs du public qui laissent faire ça.
C'est peut-être un peu populiste, mais... Madame Edith Cresson a encore deux fonctionnaires à plein temps pour assurer sa sécurité. On aurait pu en prendre un pour Samuel Paty.
Ouais, voilà.
Oui, parce que les questions des moyens, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en protection policière. C'est vrai que ça coûte très cher.
Je suis d'accord avec toi, mais
j'ai croisé récemment Madame Schiappa.
Moi, ce que j'aimerais, c'est en savoir plus.
J'ai croisé récemment Madame Schiappa dans un café. Je sais pas combien elle avait de garde du corps, de voiture, etc., mais c'était complètement hystérique. On peut raisonner ces gens en leur rappelant qu'ils ne sont pas Barack Obama, et prendre quelques-uns de ses fonctionnaires pour protéger ceux qui en ont vraiment besoin.
Didier. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est connaître la suite là de tout ça. Parce que, enfin, dénoncer, c'est bien. Dénoncer, montrer la solitude de Paty.
Il y a une plainte de la famille.
Ouais,
il va y avoir quand même. Ah bah, cette plainte.
Qui aurait pu dédier de la protection à Paty,
l'avocat pénaliste que je suis vous dit que là, vous avez tout à fait des fautes pénales caractérisées chez les gens qui dont c'était la responsabilité de réagir et qui se sont abstenus de le faire. C'est tout à fait prévu.
Est-ce que le parquet peut étouffer ça ?
Qui a étouffé, oui, mais j'espère qu'il ne le fera pas. Quand vous êtes en possibilité et quand vous avez même le devoir, l'obligation, de par vos fonctions, de faire quelque chose pour porter secours à quelqu'un qui en a besoin, vous commettez une faute si vous ne le faites pas. Vous commettez une faute pénale prévue par la loi. Donc je considère, moi, qu'il doit y avoir des suites pénales à la non-assistance de Samuel Paty.
Et j'espère que nos syndicats enseignants sauront se mobiliser si jamais le parquet essaie d'étouffer cette affaire, parce que eux aussi, certains syndicats,
j'invite les proches de Samuel Paty, si jamais il y a une inertie, à déposer une plainte avec constitution de partie civile pour qu'un juge d'instruction enquête sur ces faits. Moi, je trouve qu'il y a eu lâchage et abandon coupable de Samuel Paty.
Jérémy est avec nous au 32-16. Bonjour Jérémy.
Bonjour mes chers grandes gueules.
Oui, vous êtes scandalisé par ce qui s'est passé.
Ouais, bien sûr. En fait, l'actualité en ce moment, elle fait un peu peur, parce qu'en fait, on se sent plus protégé par l'état de droit. On se sent plus protégé, et ça rejoint un petit peu le débat qu'on a eu avec l'imam qui a fui en Belgique pour échapper à son expulsion. Pourquoi les Français aussi veulent faire leur propre justice soi-même, enfin tout est lié, quoi. À un moment donné, on peut plus vivre comme ça. On peut plus vivre comme ça.
Oui, donc il faut que l'État assure la sécurité des concitoyens.
Que la justice agisse à un moment donné. On peut plus vivre comme ça en France.
Ouais. Mais là, je pense qu'il y a eu un manque de réactivité. Alors, il y a peut-être eu de la peur, la lâcheté. Il y a eu aussi sans doute un manque de réactivité, comme il y a souvent dans ce genre de
l'éducation nationale.
Oui, mais pas seulement. Même le commissaire de police, il faudra l'interroger. Il l'appelle en disant, bon, écoutez,
allez-y avec votre voiture, voilà. C'est quand même pas une réponse.
N'allez plus à pied au collège. Bon, face à des menaces d'islamistes locaux.
Est-ce que le commissaire de police avait pris la mesure de ce qui se passait sur les réseaux sociaux? Parce que peut-être qu'il n'avait même pas consulté les réseaux sociaux pour voir l'ampleur de la chose. Et ils se sont dit, oh, une menace parmi d'autres, parce que c'est aussi ça le problème. C'est qu'on a tellement pris l'habitude, en particulier sur les réseaux sociaux, de subir des menaces, de subir des appels aux meurtres. Je veux dire, moi, j'ai pas les réseaux sociaux, mais enfin, le peu que j'ai avec ce malheureux Facebook que je regarde une fois tous les 36. Vous tous, vous avez Twitter. Vous voyez bien après chaque émission ce que vous prenez comme décharge de poubelle sur la tête,
non,
avec des menaces, etc.
Moi, j'ai que
etc.
des compliments, des félicitations.
Oui, non, mais bon,
surtout
donc,
des RATP.
Gens, non, voilà.
Jérémy, vous êtes là toujours? Bon, vous êtes chauffeur-livreur, c'est ça?
Oui.
Vous travaillez là en ce moment? Vous aimez le foot?
Oui, je travaille là, je suis sur chantier. Là,
vous aimez le foot?
Vous êtes radicalisé?
Non. Vous aimez le foot?
J'aime le foot, oui.
Bon, et je vous offre une boîte alors, Super Challenge Foot.
Eh ben, c'est super.
Il sait plus à qui les donner.
Non, parce que vous allez voir, c'est très marrant. Si vous êtes vraiment un fan, un amateur, vous allez tester vos connaissances. Il y a plus de 400 questions. Qui sont parfois difficiles, mais c'est plutôt sympa. Voilà, je vous envoie ça, Jérémy. Merci d'avoir appelé au 32-16, ça récompense votre fidélité. Dans un instant, le GG7 et match. Ah, alors là, ça va être pas mal, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Christian Estrosi, le maire de Nice, a écrit à Netflix pour demander à la plateforme américaine d'arrêter de diffuser des films violents. Il y a un film en particulier qui est dans le collimateur de Nice, c'est le film Athéna. Je ne sais pas qui l'a vu autour de la table. C'est réalisé par Romain Gavras et ça parle de jeunes qui se rébellent dans une cité à coups de tirs de
Netflix doit être bouleversé d'avoir reçu un courrier, etc.
C'est un film assez violent et visiblement ça donne des idées à certains délinquants à Nice. Alors est-ce que Christian Estrosi a raison de faire ça? Les films favorisent-ils la violence de nos jeunes? Il y aura débat, il y aura match entre Didier, Charles et Barbara. À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. C'est parti pour le GG7 et match.
RMC.
GG7 et match.
Le match des GG qui concerne le coup de colère du maire de Nice, Christian Estrosi. Un film diffusé sur Netflix serait à l'origine d'une vague de feux d'artifice sauvages en France et particulièrement à Nice. Et c'est ce que pense en tout cas la mairie de Nice qui a donc invité les Français à boycotter le film Athéna qui passe sur Netflix. Athéna, pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi je l'ai vu, c'est un film de Romain Gavras, le fils de Costa Gavras, qui raconte de manière assez violente un embrasement dans une cité HLM de France et on est du côté de ceux qui s'embrasent, qui balancent notamment des feux d'artifice, qui s'en prennent aux policiers, etc. Pour le premier adjoint du maire de Nice, Anthony Boré, on a une recrudescence de tirs de mortier, de feux d'artifice clandestins depuis 3 semaines, 1 mois, dans beaucoup de quartiers, pas seulement dans les cités HLM. Toutes les villes de France sont concernées. Il semblerait que ce film donne des mauvaises idées à certains. Et donc, ils ont écrit, lui et Christian Estrosi, à la plateforme Netflix, pour leur demander de faire preuve d'un peu de sens et responsabilité. Nous voulons qu'une mise en garde soit diffusée avant la projection du film. Ont-ils raison? Ces films-là favorisent-ils la violence? Oui, dit Didier Giraud, qui sera seul face au tandem Charles et Barbara, qui, tous les deux, disent non. Et Didier, comme tu es seul, je te donne l'avantage de démarrer
ce
match.
C'est l'avantage. pourquoi je suis d'accord avec Christian Estrosi, même si j'ai pas vu ce film, j'ai bien compris le contexte. On peut pas hurler avec les loups quand des gens prennent à partie un commissariat avec des mortiers et en même temps cautionner le fait que ces gens-là dans la vie virtuelle sont des héros, quoi. Le film de Romain Gavras, il est quand même, tu l'as dit, filmé du côté des agresseurs. Et aujourd'hui, Netflix, mais globalement la télé, le cinéma et voire même les réseaux sociaux sont dans la banalisation de la violence et on donne le bon rôle à ceux qui sont les délinquants. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien. Alors même si ça n'aura aucun effet sur la programmation de Netflix, mais je trouve plutôt bien qu'un politique de temps en temps s'insurge par rapport au fait qu'on donne le bon rôle aux délinquants, quoi. Voilà, c'est tout.
Ah bah dis donc, 60 secondes pile. Nickel.
J'avais préparé.
Eh oui, il est professionnel, Didier. Alors, Charles, Barbara, bah, Charles.
Non, mais peut-être que Christmas.
Ah, donc t'es d'accord avec moi.
Aurait écrit à Coppola pour lui dire que le parrain donne envie aux gens de faire partie de la mafia et que donc il faut que Francis Ford Coppola se cale sur les exigences du maire de Nice, ce motodidacte à la culture resplendissante, pour faire ses films. Écoutez, moi je trouve que c'est grotesque, ça plaît grotesque. Sans doute. Ah, grotesque, je trouve ça grotesque.
Il n'y a pas de lien
Je pense franchement que nos hommes politiques doivent vraiment se garder de se mêler des œuvres artistiques. Je considère que le cinéma fait partie des œuvres d'art et que si un film dépeint de la violence telle qu'elle existe, en l'occurrence dans les
mais là, quartiers, il parle de complaisance en fait.
C'est une violence. Mais oui, mais les jeunes
connaissent finalement des jeunes contre les
riches. Il n'a pas la violence, elle arrive aussi par mimétisme, Charles.
Je me méfie. Des hommes politiques qui veulent se mêler d'art. Je considère que ça ne les regarde pas. Surtout quand on voit la pauvreté intellectuelle et culturelle de leur discours habituel.
Ils veulent simplement qu'il y ait une mise en garde,
Charles,
diffusée
c'est pas vraiment
avant,
le sujet, ça.
Avant le film.
Enfin, bah non. Ça, c'est pas vraiment le sujet, Charles.
Niette.
Non, le sujet, c'est la violence. C'est la banalisation de la violence.
Le discours de ces gens, Didier, je considère que leurs discours sont tellement pauvres intellectuellement et culturellement que je ne leur donne pas voix au chapitre pour s'exprimer sur des créations artistiques.
Par ailleurs, est-ce que ces jeunes, dans ces quartiers, ont attendu le film de Romain Gavras, ont même besoin du film de Romain Gavras, ils ont les réseaux sociaux, ils ont les t'as vu la ville d'à côté, ils ont attaqué le commissariat. Oh ouais, trop bien, attends, on le fait ce soir. Donc je pense que ils ont pas besoin du film de Romain Gavras. Je poserai la question aussi de savoir est-ce que monsieur Fourniret a décidé de devenir serial killer quand il a vu Le Silence des agneaux, je ne sais pas, peut-être. Sinon monsieur Estrosi serait le procureur Pinard, c'est-à-dire celui qui avait attaqué Flaubert pour atteinte aux bonnes mœurs. Non, parce que on en
il a dit qu'il y a une recrudescence quand même des tirs de mortier de feu d'artifice depuis que ce film est diffusé.
Oui, mais comme
mimétisme tout simplement,
coïncidence. On pensait que le roman de Flaubert qui montrait une femme adultère allait transformer toutes les femmes de la bourgeoisie provinciale en gourgandines.
Ça a tout changé
Flaubert.
Ils couchaient avec leur amant dans la calèche devant la cathédrale de Rouen. Bon, donc il faut effectivement que les politiques, je crois qu'à Nice, il y a suffisamment de problèmes pour que monsieur Estrosi s'occupe des problèmes de Nice et qu'il vienne pas nous donner son avis sur la qualité cinématographique des films. Et imaginez que les jeunes de banlieue qui ont des problèmes de délinquance et de passage à l'acte violent contre l'autorité publique ont attendu un film pour ça. Donc ça, ou alors c'est d'une naïveté absolument abyssale, ou bien c'est vraiment c'est faire parler de soi. Parce qu'on a absolument rien
violence,
à faire dans
la violence dans les films ou les jeux
la
vidéo.
La violence, elle est là.
Aucune incidence sur
la violence. Mais non, je pense vraiment.
Il y a pas de mimétisme.
Tu crois que les émeutes de 2005, c'était parce qu'ils avaient regardé un film à la télé juste avant? Les émeutes de 2005, elles sont pas le reflet de. Il y avait eu un film qui venait de passer à ce moment-là et qui leur a donné l'idée de. Il y a un problème de violence chez certaines populations dans certains quartiers. C'est endémique dans un grand nombre de villes. Maintenant, venir nous dire c'est un film. J'ai même pas vu ce film parce que le film m'intéresse pas. C'est le même genre que Les Misérables et compagnie. C'est le copain de l'Adjli, ça m'intéresse pas de regarder ce film. Mais je ne peux pas. Je ne vais pas accabler ni l'Adjli ni Romain Gavras. Leur dire c'est de leur faute à eux. S'il y a de la violence dans les banlieues, mais franchement, Estrosi qui travaille avant de venir attaquer des artistes entre guillemets.
Ah ouais, mais vous.
Ben non. Non, il demande de la censure.
Non, mais c'est pas la censure. Vous situez ça au niveau de l'œuvre artistique. Moi, je pense quand même que globalement, la banalisation de la violence dans notre société
passe aussi par le cinéma, les jeux vidéo.
Oui,
la
télé. Passage à l'acte des jeunes. Alors, bien sûr qu'ils n'ont pas attendu de savoir comment on attaque un commissariat. Mais il y a cette banalisation, le fait que personne ne met aucun frein aux images de la violence. Qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle soit dans les jeux vidéo, qu'elle soit à la télé, je pense que c'est un
qui
truc
qui peut mettre un frein normalement.
Non mais
c'est
Baba,
pas les parents, c'est Baba, pas l'éducation.
Ça désinhibe en fait.
Bah non,
c'est pas le patron de Netflix.
Ça désinhibe tous ceux qui sont violents, tous ceux qui se demandent comment ils peuvent
attendre. Il y a pas des films comme ça tous les 4 matins. Non mais il y en a un de temps en temps.
Non mais c'est un contexte général sur la violence.
Didier, il a pas tort de dire que si tu regardes les films qui étaient interdits aux moins de 18 ans dans les années 70. 90 ou qui était diffusé à la télé avec un carré blanc
et ou à une certaine heure
et que tu regardes aujourd'hui les films qui sont diffusables sans interdiction et regardables par tout le monde, il y a un gap. Sincèrement, la violence aujourd'hui dans les films n'est pas la violence qu'on
gère. Et comme par hasard, notre société est plus violente.
Moi, je trouve ça beaucoup plus,
excusez-moi, la Françoise Dolto des banlieues qui fait aucune relation.
Vous avez aimé l'américanisation du monde, voilà, vous l'avez
répété. C'est un constat, ça. Je dis pas que qu'il faut interdire, qu'il faut censurer, mais la dernière fois, je me faisais la réflexion en regardant, je sais plus, un film, enfin, c'était un film policier classique, oui, qui était très violent, etc. Je me dis, mais jamais on aurait montré ça dans les années 70 à la télé, quoi.
Mais attends,
ça
aurait été interdit, censuré. Squid Game. Comment un film, coréen, Squid Game, qui est interdit aux moins de 16 ans, t'as tous les collégiens de 6e qui l'ont vu. Je suis navré, la responsabilité. Elle est pas sur le
réalisateur. Même interdit au moins de 16 ans, ça reste violent.
Elle est pas sur le réalisateur de Squid Game qui fait du business. Elle est pas sur Netflix qui fait du business. Elle est sur les parents qui laissent des gamins de 11 ans regarder Squid Game.
Le diffuseur n'a aucune responsabilité.
Moi, je trouve ça beaucoup plus.
Il a mis que c'était interdit au moins de 16 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Eh ben, c'est ce que veut Estrosi, hein. Estrosi, il demande que ça.
Il veut une mise en garde.
Il demande que ça.
Estrosi, excusez-moi. Je trouve ça beaucoup plus.
Mais c'est pas le cas de celui-là.
Je trouve ça beaucoup plus violent. Un meeting de Renaissance qu'un film sur les banlieues. Je trouve que ça
incite tout tourner bien en dérision,
davantage, mais c'est une réalité.
Toi-même, tu vis de la violence.
Je vis de la violence. Ben voilà, on passe à ce genre d'attaque. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça montre bien que franchement, c'est le genre d'idée qui naît dans les cerveau, ouais. Estrosi, c'est pas par hasard, c'est un mec qui met des caméras tous les deux mètres dans sa ville. Pour moi, c'est le niveau zéro de la politique. Et donc, ça s'incarne aussi dans ce genre
d'émission. Oui, mais tu peux pas demander à un maire de tout résoudre, les problèmes de violence dans sa ville, si derrière ça, tu dis, ne t'occupe pas de ça parce que c'est de l'art et qu'il n'y a aucun filtre à la violence, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, Estrosi, il veut pas interdire le film. Il demande à ce que ce film, il ait une mise en garde au début du film.
T'as
complètement raison, Barbara. C'est la responsabilité des parents. De savoir si les gamins les regardent ou pas. Mais à un moment donné, tu peux pas dire Estrosi, il met des caméras partout, tout ça, il est hyper sécuritaire, et puis derrière ça, lâcher complètement les chevaux.
La question est de savoir, est-ce que ces films incitent ou simplement ces films montrent la réalité? Voilà, c'est un peu l'œuf et la poule. Est-ce que c'est simplement le reflet d'une réalité, d'une certaine violence, et film est là pour le témoigner?
Ou est-ce que c'est quelque chose? C'est aussi le reflet d'un business. Romain Gavras, c'est un cinéaste.
C'est pas un business.
Il aime bien, il navigue dans ce milieu-là, la court-trajmée, tous ces trucs-là. En plus, ça lui donne il vient d'une famille, le fils de Costa Gavras, petit bourgeois du centre-ville de Paris, là, qui s'encanaille depuis quelques années avec la banlieue. Donc voilà, il veut faire un film là-dessus. Donc, il a compris qu'il y avait un business. Il a vu que ça avait bien marché avec son copain Lajli. Donc, il dit, tiens, moi aussi, je vais en faire un. Et puis voilà, c'est un business. Netflix, c'est du business. On est dans l'américanisation. Je te signale, les films de gangsters et de banlieues et des ghettos noirs américains aux États-Unis, c'était aussi le Black Entertainment, où on a aussi, en quelque sorte, encourager et glorifier tout ce qui était les gangs et la violence des gangs dans les films américains. Et Scarface, c'est la même chose. Donc,
et alors?
Non mais
est-ce que ça a eu un effet sur la population? Est-ce que ça s'est accru dans la population? Mais oui, ça s'est accru, quoi.
Alors qu'est-ce qu'il fallait faire?
Est une idole. Qu'est-ce que tu vas faire?
Attends,
tu vas interdire
Didier,
Scarface?
Du coup, fallait faire quoi?
Magnifique.
Je dis pas qu'on va tout résoudre par que c'est Estrosi qui va tout résoudre. Mais on peut pas tout accepter sans rien dire. Qu'il y ait des gamins qui jouent à Call of Duty, moi ça me pose un problème, quoi. Tu vois? Mais c'est un autre sujet, mais c'est quand même cette violence qui est banalisée, qui rentre dans les mœurs et qui provoque des passages à l'acte. Parce qu'on l'a dit en début d'émission, on est entouré par des déséquilibrés de tous bords qui sont pas forcément traités. Donc cette violence banalisée sur les réseaux, aux jeux vidéo, à la télé, elle peut provoquer des passages à l'acte. Moi,
les films favorisent-ils la violence? Le match est lancé. On va faire dans un instant le point ce match, qui est en train de mener, soit Didier, soit l'équipe composée de Charles et Barbara. Et puis on sera avec Brian, qui nous appelle de Nice, des Alpes-Maritimes, qui a plutôt choisi le camp du non. Il dit que c'est hypocrite de s'en prendre au film. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite du match, le GG 7 et match, aujourd'hui consacré à la violence de certains films et une influence, semble-t-il, sur le comportement des jeunes. C'est en tout cas ce que pense la mairie de Nice qui demande à Netflix d'intervenir après la diffusion du film Athéna de Romain Gavras. Depuis la diffusion de ce film, qui raconte de manière violente un embrasement dans une cité HLM de France, eh bien, semble-t-il, on a constaté une recrudescence de tirs de mortier, de feux d'artifice clandestins. Il faut agir, dit Didier. Non, disent Barbara et Charles. Et vous, que dites-vous dans ce match? Qui vous a convaincu? On va faire un point sur la consultation. Voyons voir. C'est où? Hey, vous êtes plutôt du côté de Charles et Barbara. Bah, 57%. Non, les films ne favorisent pas la violence.
Didier.
Alors c'est 57-43.
C'est tous les anti-gouvernements de base. En
les
fait.
Arguments de Didier.
Qui se rejoignent chez eux.
Ouais, d'une
ça s'appelle la majorité relative.
Alors ce n'est pas terminé. On va écouter maintenant au 32-16 deux avis différents. Brian tout d'abord. Bonjour Brian.
Bonjour.
Qui est plutôt dans le camp de Charles et Barbara, c'est ça?
Exactement. En plus j'habite à Nice.
Ah, donc, bon, ouais, c'est pas un argument, que, ça.
Non, c'est pas un argument. Mais les feux d'artifice, tous les jours, je les vois, je les entends. Mais je trouve que c'est un peu hypocrite que la mairie de Nice pointe du doigt Netflix, parce qu'il faut toujours trouver un coupable de toute façon. Le film est sorti le 2 septembre 2022.
Oui.
Je dis pas de bêtises. Sont pas hypocrites. On sait très bien que ces feux d'artifice, au-delà, enfin, ok, ils sont jetés pour être tirés en l'air, etc. Mais beaucoup aussi de ces feux d'artifice sont détournés pour attaquer en vérité les forces de l'ordre et les pompiers lors des interventions ou lors de leur passage dans les quartiers. Donc, premier point.
Comme dans le film.
Oui, comme dans le film. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que veut faire la mairie de Nice? C'est interdire le film?
Non, elle veut qu'il y ait une mise en garde. Avant la diffusion du film.
Brian, vous êtes d'accord que ils n'ont pas attendu le film le 2 septembre pour le faire?
Mais exactement, ils n'ont pas attendu le film le 2 septembre pour le faire. Déjà parce que ça fait plusieurs années, on le sait très bien, même dans plusieurs reportages, 90 enquêtes d'action, etc. On savait très bien que les ventes de mortiers c'est interdit et que souvent c'est détourné pour attaquer la police. Donc faut arrêter de dire que c'est ce film qui a donné l'idée à ces gens d'utiliser ces mortiers. Et au-delà de ça, le vrai problème, parce que bon, Netflix, tout ce qui est film, série, musique, etc. Derrière, ils transmettent un message. Donc là, ce qu'ils veulent transmettre, c'est voilà ce qui se passe dans les quartiers, dans certains quartiers, comment les jeunes réagissent face aux forces de l'ordre, etc. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, excusez-moi, mais acheter des mortiers, c'est très facile. Enfin, je veux dire sur Snapchat, sur les réseaux sociaux. Pour acheter
donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il vaudrait mieux que M. Estrosi s'occupe de d'interdire et de permettre qu'on on s'approvisionne moins facilement en mortier que de regarder des films, quoi.
Mais exactement. Enfin, aujourd'hui, c'est plus facile d'acheter des mortiers qu'aller acheter des cigarettes dans un tabac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mortiers à 8 coups, parce qu'ils lancent 8 boules de feu, 8 boules d'artifice, c'est 10 ou 15 euros. Donc déjà, c'est accessible au niveau du prix.
Ah oui.
Et puis, on se fait livrer, on envoie un petit message, on se fait livrer dans l'heure ou dans... Enfin, voilà. Donc, c'est là-dessus que devrait agir le gouvernement. Et au-delà de ça, c'est sur ça que devrait s'insurger Estrosi. Et pas sur...
Mais vous avez l'air de bien maîtriser, Brian. Vous avez œuvré dans le... Dans le mortier ou...
J'en ai déjà acheté, ça que vous voulez dire?
Oui.
Non, pas du tout.
Êtes-vous tireur de mortier, Brian?
Non, pas du tout. Je ne suis pas tireur de mortier. Mais après, voilà, j'habite... Alain Marchal doit connaître, j'habite vraiment sur le boulevard Paul Montel.
Oui.
Il y a le quartier des Moulins qui est juste en face. Généralement, c'est beaucoup dans ce genre de quartier, l'Ariane, les Moulins, où ces mortiers sont utilisés.
Ouais.
Non, personnellement, je n'en ai jamais acheté, même j'en ai aucune utilité... Etc. Mais c'est juste pour dire que même moi, dans mes amis sur Snapchat, je vois que c'est simple d'acheter des mortiers.
Non, mais ça, je me doute, Brian, quand on écoute les spécialistes qui vous disent une Kalachnikov, c'est 150 euros, je me doute que le mortier, ça doit être accessible et complètement facile à acheter. Après, moi, ce qui me gêne, c'est qu'à cette violence ambiante, on rajoute des des incitations, des je sais pas quoi, comment le dire, mais des exemples, voilà, des exemples à cette violence, et personne n'y dit rien, et après tout le monde va pleurer à une marche blanche parce que il y a une petite fille qui s'est fait tuer, quoi. Voilà.
Brian, merci d'avoir appelé au 32-16. Alors on a écouté le camp du non, les films ne favorisent pas la violence. On va écouter maintenant Antoine qui est plutôt du côté de Didier. Bonjour Antoine.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous nous appelez de Corse du Sud. Allez-y.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Charles et Barbara, et je suis même étonné en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils sont totalement hors sol deux raisons. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout assez rapidement. Déjà, je comprends pas l'argument là à l'heure actuelle de dire non, la violence elle influence pas. Si demain il y a de plus en plus de films avec des viols, avec des ceci, des cela, des agressions, je pense qu'on dira que ces films ont une mauvaise influence. Donc, de base, pourquoi dans un cas, ça serait une mauvaise influence et pas dans l'autre? Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment vivre dans les lieux concernés pour comprendre l'impact de ces films, en fait. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction. Hein. Le film de Gavras, je l'ai vu. Honnêtement, je le trouve nul à chier.
Je suis assez d'accord avec vous.
C'est totalement... C'est de la science-fiction, en fait. C'est quelque chose qui n'arrive pas. On est dans la violence, le feu d'artifice, les mouvements de caméra, toutes les deux secondes, en fait. On essaie de donner de l'intensité à travers ça, mais le film est vide, totalement. Et en fait, on est dans une société où, aujourd'hui, on met en avant, il y a une espèce de fascination pour la violence et la mise en beauté de la violence.
Elle est glorifiée.
Voilà, et on va victimiser les voyous ou les rendre sympathiques, en fait. Moi, je vis en Corse. Et puis, je peux vous dire que ma génération, il y a énormément de délinquants de ma génération qui ont mon âge aujourd'hui, qui ont été fascinés par le film Romanzo Criminale. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Romanzo Criminale, qui est un film italien, qui parle de la mafia. Un bon film.
Et au même moment, il y a eu le livre Gomorra. Qui est sorti. Ouais. Eh ben, je peux vous dire.
Ils
que
se prennent tous pour des petits caïds, des petits mafieux, ouais.
Voilà. Alors, c'est pas ça qui va les pousser à devenir mafieux. Mais quand on est dans un univers.
Il y a une fascination.
Où cette violence existe, où cette fascination existe, ben, ce genre de film, ça donne des clés pour s'organiser, pour comprendre.
Mais qu'est-ce que vous préconisez?
Vous voulez qu'on se remette au livre et au film de KPDP? Moi, je veux bien. Mais Fanfan la Tulipe, moi, je préfère aussi, hein. Je veux dire, moi, j'aurais regardé Fanfan la Tulipe.
C'est caricatural.
Non, mais. C'est pas ça, c'est que on a aujourd'hui un problème de société qui est la violence, l'américanisation, un show business qui ne fonctionne que sur le pognon, et ce qui attire les gens, c'est de regarder des films violents. Je précise aussi à Nadir, à Antoine, pardon, que le problème, c'est aussi par exemple le développement des films pornographiques. Les films pornographiques aujourd'hui, moi je connais pas cet univers, mais quand on entend Brigitte Lahaye expliquer que les films pornographiques à son époque et les films d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est hyper violent, c'est extrêmement dégradant pour les femmes. C'était déjà pas la joie avant, mais alors maintenant,
donc ça,
c'est carrément des appels au viol.
Ça n'a aucune influence.
Non, mais ça vous montre.
On sait qu'il y a une influence sur la façon dont les jeunes, notamment, envisagent un rapport sexuel.
Et ce business.
Ben oui, mais qui influe les comportements, Barbara. Tu viens d'en faire la démonstration.
Le porno, ça a été démontré.
Il répond à une demande. Donc vous êtes face à un système qui est un système économique.
Non, mais Barbara, pardon, là, tu viens
de faire la démonstration.
Tu tires une balle dans le pied parce que. On se bat pour que ces films soient pas accessibles aux mineurs.
Ils le sont parce que vous êtes dans une société violente.
T'es d'accord que c'est une influence.
Il faut agir sur les sources de la violence et non pas vous dire que c'est le film porno ou le film de Romain Gavras qui crée la violence.
Mais tu es d'accord que ces films. Tu es d'accord que ces pornos violents qui sont accessibles aux mineurs, c'est un problème.
Oui. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure?
C'est pareil.
Tu viens de te mettre dans le camp de Didier.
Parce qu'on parlait de gamins, de primaires qui vont embêter les filles dans les toilettes. Ils n'ont pas vu en CE2 des films porno. C'est qu'il y a une violence dans la société.
Mais tu rigoles maintenant.
Dans les familles.
Il a été démontré justement que les plus jeunes maintenant ont accès au porno. Il y a des scènes très violentes.
Pas en CE2.
Dès que t'es un portable.
Moi, ce que je te dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, Estrosi se trompe de combat. Il se trompe pas de combat. Nous, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence. On dit simplement que c'est pas en s'attaquant à un film Netflix où c'est un système économique qui fonctionne et qui vous mettra toujours plus de violence.
On peut pas mettre
de
des règles,
violents.
On peut pas mettre un cadre.
Il y a des cadres, il y a écrit au moins 16 ans.
Mais déjà, le fait qu'il y en ait un qui réagisse, c'est important.
Au moins 16 ans, je suis désolée, qu'est-ce que tu veux faire de plus?
Tu peux pas laisser faire ça sans que personne ne réagisse. Oh le porno, tu l'as dit, il y a des gens qui se battent contre le fait que le porno soit accessible et que le porno devienne la norme pour les jeunes.
Il n'y a rien à faire.
Voilà. Enfin, d'ailleurs, à ce propos, c'est un très bon exemple pour nous. Il y a depuis peu un spot publicitaire gouvernemental qui t'explique que le porno, c'est pas la vraie vie, quoi.
Ouais, et ben, il ferait mieux le gouvernement de s'attaquer à la question des réseaux sociaux et pas des films. Complètement là.
Pardon, vous êtes des vieux schnocks. Vous prenez les jeunes.
C'est vrai que t'es hyper moderne.
Ah oui, bah, excuse-moi, Didier, t'as des idées de vieux schnocks sur ce sujet. Vous prenez les jeunes pour des abrutis si tu crois qu'ils font pas la différence entre ce qu'ils voient sur des sites internet et la réalité.
Sur la sexualité, je suis pas sûr.
Je pense que tu te trompes.
Et tu penses que le spot gouvernemental, ça va les éclairer. Ça.
C'est pour dire que c'est un sujet, quoi.
C'est un sujet qui nous dépasse.
Et le sujet, c'est aussi le mimétisme de ce que les jeunes ils prennent comme image dans la tronche.
Mais regarde, tu as parlé, quelqu'un a parlé de Scarface. On a tous vu Scarface quand on avait
Tony Montana.
Ça nous a pas transformé. Ça nous a pas transformé en trafiquant de drogue. C'est pas ça qui fait de toi un trafiquant de drogue. C'est qu'on te file 5 000 euros par mois pour faire par semaine pour faire le guet en bas de la tour. Ça te transforme en trafiquant de drogue.
Voilà.
Merci. À Antoine. Antoine, vous êtes fan de foot ?
Totalement.
Bon, je vous offre le Super Challenge Foot.
Ah, super. Merci
le Trivial beaucoup. Poursuite du foot. 500 questions pour tester vos connaissances en matière de football.
Bah, quand on perdra au 8e, je pourrai jouer à ça comme ça.
Allez, on vous envoie ça le plus rapidement possible.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Alors, qui a gagné ? Résultat final de ce match entre Didier tout seul face à Charles et Barbara.
Et bien, nous 55-45.
Nous avons quand même gagné.
Vous avez gagné, mais c'est assez partagé. On va se retrouver demain dans les grandes gueules.
On a gagné.
Sarah Salman, Jérôme Marty et Benny Guézard seront dans les GG demain à partir de 9h sur RMC, RMC Story, puis le retour d'Alain Marchal, bien entendu. Et celle de Denis, bonjour Estelle.
Salut Olivier, salut les GG.
De quoi vas-tu causer ?
Eh ben écoutez, bon c'est pas très gay. On va parler du meurtre et du viol de Vanessa, une adolescente de 14 ans par un homme déjà condamné pour des faits d'agression sexuelle. Est-ce qu'il faut rendre public le casier judiciaire des délinquants sexuels comme ça se fait par exemple au Canada ou aux États-Unis ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On parlera également de la proposition d'Aurélien Pradier, candidat à la présence des alertes, très intéressant, d'instaurer un impôt sur le revenu pour tout le monde.
Bah tiens.
Quel que soit vos revenus, vous payez 1 ou 2 euros par mois. Voilà, bon.
Parce que là, pour l'instant, il y a quoi ? C'est la moitié qui ne paye pas.
44% des Français payent l'impôt sur le revenu. Donc 56% ne paye pas.
Plus de la moitié ne paye pas.
Exactement. Ah oui. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
C'est pourtant l'impôt le plus juste. Dégressif.
44% de vache à lait.
Et puis enfin, ça ne va pas vous plaire, Barbara. Faut-il sacrifier nos animaux de compagnie pour des raisons écologiques ?
Mais oui, faut tous les
parce que, en fait, non mais attendez, Barbara, non mais vous ne le savez peut-être pas, mais entre la production de nourriture, les excréments, vous savez que les chats, ils tuent largement plus d'oiseaux que les chasseurs.
Je suis d'accord.
Et que l'agriculture, Estelle.
Il y a trop de chats et trop de chiens pouvant agresser.
C'est un sujet très intéressant, surtout que l'animal domestique, comme objet dont on nie complètement les dimensions éthologiques, les besoins physiologiques et les besoins de bien-être. Je suis en particulier contre, évidemment, l'industrie agroalimentaire de l'alimentation animale.
Mais tout à fait.
L'adoption responsable. L'adoption responsable.
C'est pour ça qu'on l'adore.
Ce sont des êtres vivants dont on doit respecter les besoins physiologiques et parfois la vie domestique n'est pas faite pour ces animaux.
Non, je pense qu'il faut euthanasier les maîtres aussi.
Voilà.
Plus souvent que les animaux.
On n'arrête pas de nous embêter sur l'écologie alors que les animaux.
Ensemble, les gens avec leurs chiens, ça, tac, tout le monde en même temps.
Voilà. Bon, ça, c'est une proposition qui ne sera peut-être pas retenue. Voilà.
Est-ce qu'on supprime les animaux plutôt que les jets privés ? Enfin, ça aussi, c'est une question. Non, je rigole, bien sûr. Ça, ce sera à 14h. Bon,
en tout cas, il faudrait revenir
merci
sur les
élevages. On va t'écouter. C'est terminé, Barbara, tu reviendras, je te promets. Bon après-midi sur RMC, RMC Story.